La distinction dans la loi. Document d'étude numéro 096. Ce document d'étude examine la distinction entre la loi morale et la loi sacrificielle. Cette distinction fait partie des fondements des activités de la Genèse. Ce document d'étude traite également des aspects plus larges des lois de Dieu. Les distinctions spécifiques faites par les réformateurs sont énumérées, comme les articles de foi, depuis la seconde convention helvétique jusqu'aux articles méthodistes de religion de 1784, en passant par les 39 articles de l'Église anglicane de 1571 et d'autres articles importants de la Réforme. Ces déclarations sont importantes en soi. Certains éléments du christianisme moderne tentent d'affirmer que la loi est abolie, d'après une lecture incorrecte des épîtres de Paul dans le Nouveau Testament. Cette affirmation est erronée. Cette opinion est fondée sur une mauvaise compréhension de ce qui a été éliminé par le sacrifice de Christ et cloué au stauros, le poteau, ou la croix de Colossiens 2,14. Christ a annulé l'écriture, en grec hiérographon, dans les ordonnances, qui était contre nous, entre parenthèses, ou était contraire à nous, voir l'interlinéaire de Marshall dans la RSV, avec ses exigences. Elle a été ôtée du chemin et clouée au stauros. Quelle est donc cette écriture? Qu'est-ce qui a été ôté du chemin par le sacrifice de Christ? Ce n'était certainement pas la loi de Dieu. La distinction faite par les apôtres montre que les commandements faits par Dieu étaient essentiels. Voici après dans ce document. Le chiérographon est un document d'endettement. D'après l'utilisation du grec dogmazine, c'est un système de règlement qui constitue la loi mosaïque. Éphésiens 2, verset 15. La relation entre Dieu et sa loi est importante. Dieu est juste, voir Esdras 9, verset 15. Sa loi est juste, voir Psaume 119, verset 172. Dieu est parfait, Matthieu 5, verset 48. Sa loi est parfaite, Psaume 19, verset 7. Dieu est saint, Lévitique 19, verset 2. Sa loi est sainte, Romains 7, verset 12. Dieu est bon, Psaume 34, verset 8. Sa loi est bonne, Romains 7, verset 12. Dieu est vérité, Deutéronome 32, verset 4. Sa loi est vérité, Psaume 119, verset 142. Dieu est immuable. De même, Christ est aussi le même hier, aujourd'hui et demain, Hébreux 13, verset 8. Car Christ a la plénitude de la nature divine, Colossiens 1, verset 19, Colossiens 2, verset 9. La loi possède les qualités essentielles de Dieu, provenant de sa nature même, et elle est écrite dans le cœur des élus. La loi est juste, vraie et bonne, Néhémie 9, verset 13. Les élus sont circoncis dans le cœur, parce qu'ils participent à la nature divine, 2 Pierre 1, verset 4, et s'efforcent d'avoir toute la plénitude, en grec pléroma, de Dieu, Éphésiens 3, verset 19, comme l'a fait Christ. Tous les autres sont requis d'observer les lois de Dieu. Ils sont punis pour ne pas avoir changé, selon la King James, autrement dit, parce qu'ils n'observent aucune loi. Voir la version RSV de la Bible. Et Psaume 55, verset 19. Bénis sont ceux qui marchent dans la loi du Seigneur. Psaume 119, verset 1. La loi est accomplie en nous qui marchons selon l'Esprit. Romains 8, verset 4. Ce ne sont pas les auditeurs de la loi qui sont justes, mais ceux qui obéissent. Romains 2, verset 13. L'observance des commandements de Dieu est essentielle à l'amour et à la connaissance de Dieu. 1 Jean 2, verset 3, verset 4. 1 Jean 3, verset 22, 1 Jean 5, verset 3. Et à la connaissance de Christ, Jean 14, verset 15, verset 21. Et pour recevoir et conserver l'Esprit Saint, Jean 14, verset 21, 1 Jean 3, verset 24, Actes 5, verset 32. Et aux bénédictions de Dieu, Apocalypse 22, verset 14. La transgression ou le relâchement ou l'enseignement du relâchement ou de la transgression des commandements a été interdit par Christ. Matthieu 5, verset 19. Nous lisons dans Matthieu 5, verset 19. « Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. » Version Louis II. Le fait est que Paul parlait dans les textes non seulement de deux corps de loi, mais aussi d'un troisième ouvrage qui a été perdu pendant quelques siècles. L'ouvrage a été appelé par lui Ergon Nomou et traduit comme les œuvres de la loi. Elle était en fait un autre corps de texte qui s'est perdu pendant près de 2000 ans. Il a été trouvé parmi les manuscrits de la Mer Morte et est examiné dans le document d'étude Les textes des œuvres de la loi ou Miksa Mahase HaTorah, MMT, numéro 104. Paul a enseigné que ni la circoncision ni l'incirconcision ne comptent, mais l'observation des commandements de Dieu l'est. 1 Corinthiens 7, verset 19. Il est donc peu probable qu'il va ensuite se contredire dans Colossiens ou Galates. Par exemple, Galates 3, verset 10. Il parle donc de deux corps de loi. La loi qui a été accomplie par Christ au calvaire devait donc être une d'un type qui n'a pas été changé, mais accompli. La distinction habituelle est celle de la loi morale et de la loi cérémonielle. La loi morale constitue les 10 commandements. La prétendue loi cérémonielle est appelée la loi de Moïse. On montrera que la distinction est inadéquate. Le texte sur les œuvres de la loi montre un secteur principal de malentendus qui détruit la position antinomienne du christianisme moderne. La distinction est rendue plus évidente par la comparaison suivante. Le décalogue était, premièrement, donné par Dieu par l'intermédiaire de l'ange au Sinaï. Voir Exode 20, verset 1, verset 22, Deutéronome 4, verset 12, verset 13, chapitre 5, verset 22. La loi sacrificielle ou cérémonielle était, premièrement, énoncée par YHWH, écrite par Moïse. Voir Exode 24, verset 3, verset 4, verset 12, donné en plus des commandements. Voir Exode 24, verset 12. Le décalogue était, deuxièmement, écrit par Yahovah, voir Exode 31, verset 18, 32, verset 16. La loi sacrificielle ou cérémonielle était, deuxièmement, écrite par Moïse, voir Exode 24, verset 4, Deutéronome 31, verset 9. Le décalogue était, troisièmement, sur des pierres, voir Exode 24, verset 12, chapitre 31, verset 18. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle était, troisièmement, dans un livre, voir Exode 24, verset 4. Verset 7, Deutéronome 31, verset 24. Le décalogue était quatrièmement remis par Yahovah à Moïse, voir Exode 31, verset 18. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle était quatrièmement remise par Moïse aux Lévites, voir Deutéronome 31, verset 25, verset 26. Le décalogue était cinquièmement déposé par Moïse dans l'arche, voir Deutéronome 10, verset 5. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle était cinquièmement déposée par les Lévites à côté de l'arche, voir Deutéronome 31, verset 26, où elle était un témoin contre Israël. Le décalogue, sixième point, traite des préceptes moraux, voir Exode 20, verset 3 à 17, or que la loi sacrificielle ou cérémonielle, sixième point, traite avec des questions rituelles cérémonielles, entre parenthèses, à partir de son utilisation dans Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Le décalogue, septième point, révèle le péché, Romains 7, verset 7. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle, septième point, prescrit des offrandes pour les péchés, voir Lévitique. Le décalogue, huitième point, montre que le fait de transgresser la loi est le péché, voir 1 Jean 3, verset 4, et que le salaire du péché est la mort, voir Romains 6, verset 23. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle, huitième point, sa transgression n'est point un péché, parce qu'elle est supprimée, voir Éphésiens 2, verset 15. De là, là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression, Romains 4, verset 15. Le décalogue, point 9, nous devons observer la loi entière. Selon Jacques 2, verset 10, nous ne devons pas enfreindre le moindre des commandements de la loi, Matthieu 5, verset 19. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle, neuvième point, les apôtres n'ont pas donné un tel commandement, entre parenthèses, instruction ou commission, du grec « deistei laimeta », d'observer la loi. Voir Acte 15, verset 24. Le décalogue, dixième point, « parce que cette loi nous jugera », voir Jacques 2, verset 12, « or que la loi sacrificielle ou cérémonielle », point 10, « nous ne devons pas être jugés en l'observant », voir Colossiens 2, verset 16. Le décalogue, point 11, « le chrétien qui observe cette loi est béni dans ce qu'il fait », voir Jacques 1, verset 25. Or que la loi sacrificielle ou cérémonielle, onzième point, nous ne sommes pas justifiés par la loi, mais par la foi. Le décalogue, point 12, c'est la loi parfaite de liberté, Jacques 1, verset 25, comparé à Jacques 2, verset 12, parce que la loi est parfaite, psaume 19, verset 7. Tandis que la loi sacrificielle ou cérémonielle, point 12, la liberté vient de la foi et non de la justification par la loi. Galates 5, verset 1, verset 3. Et 13e point, le décalogue, cette loi, a été établie par la foi en Christ, Romains 3, verset 31. Elle n'a pas été détruite, Matthieu 5, verset 17. Tandis que la loi sacrificielle ou cérémonielle, point 13, Christ a supprimé, aboli la division de la loi, voir Éphésiens 2, verset 15, la dette, Colossiens 2, verset 14, et la structure, Galates 3, verset 19. Le décalogue, point 14, Christ devait amplifier la loi et la rendre honorable, Ésaïe 42, verset 21. Tandis que la loi cérémonielle ou la loi sacrificielle, point 14, Christ a effacé l'acte des ordonnances qui était contre nous, Colossiens 2, verset 14. Le décalogue, point 15, nous savons que la loi est spirituelle, Romains 7, verset 14, comparé verset 7. Tandis que la loi sacrificielle ou cérémonielle, point 15, cette loi est d'une ordonnance charnelle, selon Hébreux 7, verset 16. Dieu a permis qu'Israël ait des lois par lesquelles ils ne pourraient pas vivre à cause de leur pollution, Ézéchiel 20, verset 25. Cette loi n'a rien rendu parfait. La structure charnelle de la loi sacrificielle et les symboles physiques ont dû être répétés annuellement, jusqu'à ce que Christ ait payé une fois pour toutes nos péchés. La loi sacrificielle devait être entièrement enlevée, afin que nous puissions élever notre relation avec Dieu à un niveau entièrement spirituel. Ce n'est qu'à travers Christ et par le don de l'Esprit-Saint que cela pouvait se faire, car nous sommes nous-mêmes les sacrifices vivants du système, en donnant notre vie par amour les uns pour les autres. Le décalogue est l'explication des deux grands commandements auxquels dépendent toute la loi et les prophètes. Comparez le document d'étude, le premier grand commandement, numéro 252, et le deuxième grand commandement, numéro 257. Ainsi, il y a donc une distinction dans la loi, et cette distinction soutient clairement la loi morale. La loi morale de Dieu est spirituelle, étant parfaite, comme Christ l'a établie, honorée et amplifiée par la foi, et elle confère la liberté. Elle a été écrite par le doigt de Dieu et est appelée la loi royale. Exode 31, verset 18, Jacques 2, verset 8. Nous sommes jugés par cette loi que Christ a amplifiée dans son intention. Ainsi, la convoitise est équivalente à l'adultère. La loi tout entière est plus grande et non moindre dans son impact sur les justes. Les prophètes ont interprété cette loi morale telle qu'elle est inscrite et enchâssée dans les deux grands commandements et les dix commandements qui les expliquent. Ainsi, la dite loi cérémonielle est en réalité sous-divisée en loi sacrificielle et en commentaires législatifs qui interprètent la loi morale. L'échec de ne pas comprendre cette distinction est l'erreur fondamentale du christianisme moderne, qui est par nature intrinsèquement antinomien et gnostique. Le christianisme a cherché à tort à éliminer la loi de Dieu suite à une mauvaise compréhension des textes de Paul et des références au ergon nomou, ou les œuvres de la loi. En tirant cette conclusion, et en englobant tous les aspects du Pentateuch dans la dite loi cérémonielle, ils ont pu plaire aux tribus païennes et introduire les systèmes des cultes du soleil et des mystères. Le sabbat a pu être alors changé au dimanche, et le système d'Easter, la Pâque païenne, a remplacé la Pâque. L'observance des commandements de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ est essentielle pour hériter l'arbre de vie, comme nous le voyons à Apocalypse 14, verset 12 et Apocalypse 22, verset 14. La loi des commandements contenue dans les ordonnances, Éphésiens 2, verset 15, Colossiens 2, verset 14, était l'ombre des bonnes choses à venir, Hébreux 10, verset 1, et elle a été annulée pour sa faiblesse et son inutilité, voir Hébreux 7, verset 18, Hébreux 10, verset 3. Elle a été donnée à cause de la transgression, étant ordonnée par des anges à travers un médiateur. Galates 3, verset 19. Nous avons donc affaire au système d'expiation sous la loi sacrificielle qui était nécessaire dû à notre échec continuel à observer la structure et l'intention de la loi. Pour cette raison, la circoncision d'un adulte baptisé était un signe physique d'identification avec une nation qui était elle-même spirituelle et qui transcendait les limites d'une nation physique. Par conséquent, elle ne procurait rien d'autre que des aspects spirituels de l'individu. Comparé du document d'étude de la purification et la circoncision numéro 251. Le mythe suivant est que la loi a été établie au Sinaï. La loi morale de Dieu n'a pas été établie au Sinaï. Elle a existé dès la création provenant de la nature de Dieu. Le péché a existé avant que la loi ne soit donnée à Moïse. Romains 5, verset 13. Ainsi, les conséquences de la loi étaient déjà connues depuis Adam, car le péché n'est pas compté là où il n'y a aucune loi. Là où le péché a augmenté sous la loi à partir du Sinaï, la grâce a abondé. Romains 5, verset 15 à 21. Le péché est contre Dieu d'après sa nature. Psaume 51, verset 4. Satan a péché en se rebellant contre Dieu et en mentant à Ève, contrairement à la volonté de Dieu, volant ainsi les couronnes d'Adam et d'Ève et la dévotion due à Dieu. Satan a transgressé le premier, cinquième, sixième, huitième, neuvième et dixième commandement, voir Genèse 3, verset 1 à 4, Ésaïe 14, verset 13 à 14, Ézéchiel 28, verset 2 à 10. Par la suite, Satan a mis en place des représentations physiques de démons et en a fait des objets d'adoration et profanant le nom de Dieu, transgressant ainsi le deuxième et le troisième commandement. Au temps de Christ, il était compris que Satan et les démons ont quitté leur premier état, commettant la fornication avec les filles des hommes, transgressant ainsi le septième commandement. Entre parenthèses, voir Genèse 6, verset 4, 1 Corinthiens 11, verset 10 et Jude, verset 6. Voir en particulier la Bible New English Bible pour une formulation plus claire de Jude, verset 6. Voir également les manuscrits de la Mer Morte, la Genèse apocryphe et 1 Enoch. Par le biais de faux systèmes religieux, Satan et les démons ont attaqué le quatrième commandement. Ainsi, la loi est une relation théorique entre des entités non physiques aussi bien que des entités physiques. Elle est ainsi spirituelle, alors que l'humanité est charnelle, étant vendue au péché. Romains 7, verset 7, verset 14. Comme le sont les démons qui sont coupés de Dieu. L'individu converti se délecte de la loi de Dieu en son fort intérieur. Psaume 119, verset 1 et suivant, Romains 7, verset 22. Ils ne sont pas redevables à la chair, mais envers l'esprit, en tant que des fils de Dieu. Romains 8, verset 9 à 17. L'humanité a péché par transgression des premiers, deuxième, huitième et dixième commandements dans le jardin d'Éden. Genèse 3, verset 17. Comparez aussi les documents d'étude, la doctrine du péché originel partie 1, le jardin d'Éden, numéro 246, et la doctrine du péché originel partie 2, les générations d'Adam, numéro 248. Caïn a péché et transgressé les sixième et dixième commandements lorsqu'il a tué son frère Abel. Genèse 4, verset 7 à 8. Caïn et Abel sont représentatifs de Christ et de Satan dans l'armée. Le sacrifice pastoral d'Abel est plus acceptable pour Dieu, car il symbolise le sacrifice personnel de Christ plutôt que les produits alimentaires obtenus de la terre par Caïn. Les symboles sont spirituels. Comparez les documents d'études, le végétarisme et la Bible numéro 183. Les Néphilim ont péché par le meurtre et la violence avant le déluge, et Dieu les a jugés et détruits. Genèse 6, verset 4 à 5, versets 11 à 13. Enoch est parvenu au repos de Dieu par une justice positive, démontrant ainsi le système du sabbat. Genèse 5, verset 22 à 24. Comparez aussi le document d'étude Les Témoins, numéro 135, pour plus d'informations concernant Enoch. La création est un témoignage positif du sabbat et des jours saints, Genèse 1, verset 1 jusqu'au chapitre 2, verset 3. Par les saisons de récolte, il reflétait le plan de Dieu depuis la création. Cham, ou peut-être Canaan, a brisé le cinquième commandement en déshonorant Noé, Genèse 9, verset 20 à 27. Le commentaire de la Sansino montre qu'il y a division d'opinion parmi les autorités quant à savoir si Cham ou Canaan était le coupable et si l'offense a impliqué une castration ou un acte pervers. Voir la Sansino, le commentaire de Rashi et Sforno. Le pharaon a péché en commettant l'adultère avec Sarai et en transgressant le septième commandement, bien qu'il fût ignorant de l'infraction par la duperie d'Abraham, qui a aussi péché par faux témoignage en transgressant ainsi le neuvième commandement. Il a enfreint le septième commandement parce qu'il a envoyé sa femme en esclavage dans une relation adultère. Genèse 12, verset 15 à 20. Sa progéniture a été punie par l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Genèse 15, verset 13. Ainsi, deux principes sont établis ici. Premièrement, l'ignorance des commandements de Dieu n'est pas une excuse. Deuxièmement, les élus sont tenus responsables de faire trébucher les nations ou d'échouer de les avertir. Ézéchiel 33, verset 1 à 6. Abimélec a également été placé en infraction avec la loi par la tromperie d'Abraham. Cette fois, Dieu est intervenu, entre parenthèses, en sauvant Israël, car Abimélec ne s'était pas encore approché de Sarah. Cependant, il a été averti qu'il était un homme mort parce qu'il avait pris la femme d'un autre homme. Genèse 20, verset 3 à 4. Autant le pharaon qu'Abimélec étaient tous deux entièrement conscients d'avoir enfreint la loi du Dieu Très-Haut. Ainsi, l'octroi, entre parenthèses, le don de la loi à Israël, au Sinaï, était pour renforcer la loi, entre parenthèses, morale de Dieu, et fournir des ordonnances supplémentaires pour le gouvernement d'Israël et pointer vers Christ. Abraham a été soutenu par Dieu dans la guerre contre les nations suite à l'attaque des villes de la plaine, parce qu'elles avaient transgressé les 6e et 8e commandements, même si leur action impliquait les villes de Sodome et Gomorre sous la menace de destruction. Genèse 14, versets 11 à 24. Il n'y a donc aucune acception de personne avec Dieu. Deutéronome 1, verset 17, 16, verset 19, de Samuel 14, verset 14, de Chroniques 19, verset 7, Proverbes 24, verset 23, 28, verset 21, Romains 2, verset 11, Éphésiens 6, verset 9, Colossiens 3, verset 25, Jacques 2, verset 1. Comparez le document d'étude de l'acception de personne numéro 221. Job ne voulait pas pécher et transgresser le troisième commandement en maudissant Dieu et donc mourir. Job 1, verset 22, Job 2, verset 9 à 10. Il est reconnu que Job a précédé la loi au Sinaï. Par conséquent, le concept du péché, Job 2, verset 10, a également précédé le Sinaï. Ésaü a déshonoré son père en vendant son droit d'aînesse à Jacob qu'il a supplanté. Genèse 25, versets 31 à 34, transgressant ainsi le cinquième commandement. Comme le cinquième a été le premier à contenir une promesse, la perte du droit d'aînesse a été une punition. Dieu est donc intervenu pour maintenir ce principe même si Jacob avait enfreint le dixième et allait enfreindre le neuvième commandement. Moïse a été fait un Élohim pour Pharaon. Exode 4, verset 16, Exode 7, verset 1, parce que l'Égypte avait violé les commandements. Ceux qui ont péché sans la loi étaient ceux qui n'avaient pas l'ensemble général de la loi. Le péché existait avant le Sinaï, mais sans la loi, le péché est mort. Romains 7, verset 8. Paul laisse entendre que l'ignorance lui permet de se libérer de l'affirmation selon laquelle il était autrefois vivant sans la loi, mais que le commandement est venu, le péché a repris vie et il est mort. Romains 7, verset 9. Il est clair que tout le corps de la loi était en vigueur quand il a écrit ce texte. En effet, rien n'avait été aboli à ce moment-là. La nouvelle alliance n'avait pas encore pris le relais de l'ancienne lorsque la plus grande partie du Nouveau Testament est écrite. Nous lisons dans Hébreux 8, verset 13. En disant « une alliance nouvelle », il a déclaré la première ancienne. Or, ce qui est ancien, ce qui a vieilli, est prêt de disparaître. Version du second. Elle était prête de disparaître ou disparaîtra bientôt. Le chemin vers le lieu très saint n'était pas encore disponible. Nous lisons dans Hébreux 9, verset 8. L'Esprit Saint montrait par là que le chemin du lieu très saint n'était pas encore ouvert tant que le premier tabernacle subsistait. Version du second. Le chemin ne pouvait être ouvert qu'avec la destruction du temple en l'an 70 de notre ère et la dispersion de Juda. C'est le sens le plus complet du signe de Jonas et de la prophétie des 70 semaines d'années dans Daniel 9, verset 25. Consultez le document d'étude Le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple, numéro 013, qui concernait la cessation de l'ancienne et le début de la nouvelle alliance. La nouvelle alliance concernait donc la loi sacrificielle, qui ne pouvait être éliminée qu'avec le temple. La nouvelle alliance était l'abolition des ordonnances sacrificielles et non l'élimination de la loi. Les aspects plus larges des lois de Dieu. L'affirmation selon laquelle les 10 commandements étaient la seule partie du corps de la loi de Dieu, sous la rubrique de la loi morale qui existait avant le Sinaï, est incorrecte. Les 10 commandements sont les points clés de la loi au sein des premiers 2 grands commandements et qui sont développés dans leur intégralité par la loi et les prophètes. Les lois sur l'alimentation existaient déjà avant le déluge. Noé connaissait la distinction dans les catégories d'animaux purs et impurs données par Dieu dans les spécifications pour l'arche. Genèse 7, versets 2 à 3. En conséquence, les dispositions des lois sur l'alimentation ont été faites dès la création. Les distinctions ont été faites et ont été vues depuis Adam jusqu'à Abel, voire ci-dessus dans ce document d'étude. L'affirmation selon laquelle les lois sur l'alimentation sont observées par ceux qui judaïsent montre une profonde ignorance des bases scientifiques et environnementales des lois sur l'alimentation et de leur place dans la création. Consultez le document d'étude « Les lois sur l'alimentation » numéro 015. De même, l'affirmation selon laquelle les lois sur la dîme étaient liées aux lois sacrificielles données au Sinaï est également fausse. Abraham a donné la dîme à Melchisédek de Salem environ 400 ans avant la loi au Sinaï. Voir Genèse 14, versets 18 à 20. Comparez aussi le document d'étude « Le prélèvement de la dîme » numéro 161. Il y a donc un aspect continuel, permanent, de la loi qui va au-delà de la limite spécifique du décalogue et qui couvre les aspects qui régulent la vie quotidienne d'Israël et de la planète. Le Messie doit établir la structure mondiale à la fin de l'âge, et à ce titre, il rétablira les sabbats, les nouvelles lunes, Ésaïe 66, verset 20, et les fêtes, Zacharie 14, verset 16 à 19, voir aussi Ézéchiel 45, verset 1 et suivant, et 46, verset 1 et suivant. Ainsi, Lévitique, chapitre 23, a un effet continu, et les nations seront forcées d'observer la loi. Christ est le même hier, aujourd'hui et demain, Hébreux 13, verset 8. De là, Christ ne changera pas les conditions des jours saints qu'il imposera au peuple. De même, les nations sont exigées d'observer les sabbats de la terre, et la terre aura son repos en raison de l'échec d'observer ses lois physiques. La connexion entre la loi et les conséquences sera restaurée. Il y a donc une distinction claire entre les lois de Dieu et la loi qui a été abolie par Christ. Celle-ci peut seulement avoir été la loi sacrificielle avec ses obligations rituelles. Les ordonnances sacrificielles ne réglementaient pas les sabbats, lesquels faisaient partie intégrante du décalogue. Elles ont simplement dicté ce qui a été fait pendant les jours de sabbat au cours de la période du temple, comme un précurseur à la venue du Messie et de l'établissement d'un nouveau système dont elles étaient simplement explicatives. Ainsi, les sabbats n'ont pas été éliminés à la mort du Messie. Les sabbats sont devenus plus significatifs avec l'établissement de l'Église, dont ils étaient l'interprétation. Le système de culte du dimanche est dérivé du système païen et des cultes du soleil, et n'a rien à voir avec le christianisme. Comparez aussi le document d'étude des origines de Noël de Deer Park païenne, numéro 235. La compréhension de la distinction dans la loi entre le décalogue et la loi sacrificielle est assez ancienne et assez significative. Les réformateurs étaient spécifiques dans cette distinction. Une liste de nombreuses déclarations à cet effet figure dans la publication des Adventistes du septième jour, Questions on Doctrine, Questions sur la doctrine, Review and Herald Publishing, 1957, page 131 et suivant. Ces déclarations sont les suivantes, citation. La seconde confession helvétique de 1566 de l'église réformée de Zurich est l'un des symboles les plus dignes de foi de tout le continent. Au chapitre 12, à propos de la loi de Dieu, après avoir comparé la différence entre les lois morales et les lois cérémonielles, dit à propos des lois morales, « Nous croyons que toute la volonté entière de Dieu et tous les préceptes nécessaires pour chaque partie de cette vie sont pleinement délivrés dans cette loi. » Entre parenthèses, non pas que nous sommes justifiés par elle, mais que nous nous tournerons vers Christ par la foi. Les types et les représentations de la loi cérémonielle ont cessé. L'ombre a cessé quand le corps est venu. Mais la loi morale ne doit pas être dédaignée ou rejetée, et tous les enseignements contre la loi sont condamnés. Voir l'ouvrage de Schaft, volume 3, page 854 à 856, c'est nous qui soulignons ici dans le texte, dans ce document. 39 articles de religion de l'Église anglicane, 1571. L'article 7 stipule que la loi de Dieu donnée par Moïse concernant les cérémonies et les rites n'est pas obligatoire. Aucun homme chrétien, quel qu'il soit, n'est libéré de l'obéissance aux commandements, qui sont appelés la loi morale. Fin de citation. Voir l'ouvrage de Schaft, volume 3, page 491-492, l'ancienne orthographe conservée dans ce document. La révision américaine des 39 articles par l'Église épiscopale protestante de 1801 est identique à la précédente qu'on vient de lire. Voir Scart, volume 3, page 816. Les articles irlandais de religion de 1615, qui auraient été composés par l'archevêque Usher, après avoir déclaré que la loi cérémonielle est abolie, disent « Aucun homme chrétien, quel qu'il soit, n'est libéré de l'obéissance aux commandements qui sont appelés la loi morale. » Fin de citation, voir l'ouvrage de Scart, volume 3, aux pages 526-541. La confession de foi de Westminster de 1647, après avoir montré la différence entre la loi cérémonielle et la loi morale, et l'abrogation de la première et la perpétuité de la seconde, déclare au chapitre 19 que la loi morale est obligatoire pour tous, pour toujours, non pas pour la justification, mais comme une règle générale de vie, afin de reconnaître la puissance d'habilitation de Christ. Cette loi continue d'être une loi parfaite de justice, et elle ajoute « Dans l'Évangile, Christ ne l'a pas dissoute, de quelque façon que ce soit, mais il a grandement renforcé cette obligation. » Fin de citation, voir l'ouvrage de Scaft, volume 3, aux pages 640 à 644. La déclaration de Savoie des congrégations des églises de 1658. Il n'y a aucun changement au chapitre 19 à propos de la loi de Dieu, de la confession de Westminster. Voir l'ouvrage de Scaft, volume 3, page 718. La confession baptiste de 1688, Philadelphie, basée sur la confession de Londres de 1677, n'a aucun changement par rapport à la confession de Westminster. Au chapitre 19, à propos de la loi de Dieu, elle traite de la distinction entre la loi morale et la loi cérémonielle et affirme qu'aucun chrétien n'est libéré ou exempt de la loi morale. Fin de citation, voir l'ouvrage de Scaft, volume 3, page 738. Les articles méthodistes de religion de 1784. Ces 25 articles, rédigés par John Wesley pour les méthodistes américains, sont un abrégé des 39 articles de l'Église anglicane et déclarent « Bien que la loi de Dieu donnée par Moïse en tant que cérémonie, rite et mouvant ne soit plus obligatoire pour les chrétiens, et que les préceptes civils qui en découlent par nécessité ne doivent pas être reçus dans n'importe quel Commonwealth, cependant, malgré cela, aucun chrétien n'est libéré ou exempt de l'obéissance au commandement dit la loi morale. » Fin de citation, voir l'ouvrage de Scaft, volume 3, aux pages 807-808. En référence à cette position, les Adventistes du septième jour soutiennent que, citation, « La position maintenue par les Adventistes du septième jour quant à leur relation au décalogue et leur distinction entre la loi morale et la loi cérémonielle est pleinement soutenue par les croyances principales, les articles de foi et les catéchismes du protestantisme historique. Le concept que le décalogue a été aboli par la mort de Christ est relativement récent. Certainement, les pères fondateurs du protestantisme ne l'ont pas enseigné, car cela est en conflit total avec leurs croyances. » Fin de citation de l'ouvrage des Adventistes du septième jour, Questions on Doctrine, questions sur la doctrine, aux pages 131 à 134. Le fait que l'on soit d'accord avec les pères fondateurs du protestantisme devrait toujours être traité avec beaucoup de prudence, car ils avaient complètement tort. Ils n'ont pas réussi à remonter au-delà d'Augustin d'Hippone dans leurs réformes. De ce fait, les réformateurs ont échoué à restaurer les enseignements originaux de l'Église. Ils ont échoué à établir le système correct d'adoration dans le cadre du calendrier de Dieu, comparé le document d'étude le calendrier de Dieu numéro 156, et ils ont ensuite échoué à établir la relation correcte entre la loi de Dieu et la distinction dans la loi. Une erreur spécifique qu'ils ont commise consistait en ce qu'ils ont échoué à corriger l'erreur de la Trinité, qui avait été introduite, entre parenthèses, créée, à partir des conciles de Constantinople, en l'an 381 de l'ère courante, et de Chalcédoine, en l'an 451 de l'ère courante. La réforme a donc échoué, et ils ont ensuite été empêchés d'établir les jours saints par décret divin et une intervention divine. Les jours saints et les sabbats sont délibérément contestés. C'est une promesse que Dieu lui-même avait faite par l'intermédiaire des prophètes. Dieu a parlé par l'intermédiaire du prophète Amos, et il a comparé Israël des derniers jours à un panier de corbeilles de fruits d'été. Voir Amos 8, verset 1 suivant. La punition pour le refus d'obéir ou manque d'obéissance à Dieu est que les sabbats et les fêtes sont transformés en deuil. Cela est suivi par la famine d'entendre la parole de Yahovah. Amos 8, versets 11 à 14. À cause de l'échec de comprendre la nature de l'unique véritable Dieu, Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20, les gens sont punis, Osée 8, verset 5 à 9. Même les démons savent que Dieu est un, et ils tremblent. Jacques 2, verset 19. Les grandes choses de la loi de Dieu ont été écrites pour Israël, parce qu'ils les ont considérées comme étrangères par leur transgression du premier commandement et leur prolifération de péchés dans le culte. Osée 8, verset 11 à 12. Voir la Bible interlinéaire et aussi la loi et le premier commandement numéro 253. Le lien entre les fêtes et les sacrifices notés dans Deutéronome 12, versets 8 à 14, a été supprimé, ainsi que le lien entre les sacrifices et le sabbat hebdomadaire. On ne peut pas lier le calendrier sacré et les fêtes et la loi sacrificielle sans appliquer le même concept à tous les autres aspects de la loi. Tout le système de gouvernement de Dieu a été libéré du système sacrificiel, incluant le système des jours saints. La Pâque, elle-même, a été introduite avant que la loi n'ait été donnée au Sinaï. Tout le processus entier d'introduction des élus au sein du christianisme est basé sur la séquence des jours saints, et ce jusqu'à la deuxième résurrection ou résurrection générale. Ils ne peuvent pas être abolis avant le dernier grand jour. Chaque fête représente une partie continue du plan de Dieu qui est toujours en cours. Elles font partie, par définition, du système de récolte qui fonctionne et se déroule encore. Comparez le document d'étude « Les fêtes de Dieu » en rapport avec la création numéro 227. La loi était l'ombre des choses à venir. Hébreux 10, verset 1. L'ombre montre la réalité. Elle n'en est pas enlevée. Cette ombre était liée spécifiquement au sacrifice. Hébreux 10, verset 1 à 10, et non aux fêtes. Les églises catholiques et protestantes comprennent toujours que les premières fêtes doivent être observées. Elles ont confondu la Pâque avec le système païen d'Easter, la Pâque païenne, et comptent incorrectement la Pentecôte à partir d'Easter, la Pâque païenne. Cependant, elles ne discutent pas de leur nécessité. En raison de leur compréhension erronée de la doctrine du royaume de Dieu et du refus de la restauration physique lors du millénium et de la deuxième résurrection, elles ne comprennent pas les fêtes postérieures. Le repas du 14 Nissan, qui est devenu le dîner du Seigneur, a été joint à la Pâque et observé à l'extérieur des villes, tel qu'exigé par Deutéronome 16, versets 5 à 7. Comparez les documents d'étude de la Pâque, numéro 098, les disputes quarto-décimales, numéro 277, et la Lune et le Nouvel An, numéro 213. Le dîner du Seigneur a été institué et observé par Christ. Le dîner du Seigneur précède la Pâque, étant la nuit du 14 Nissan. Le sacrifice de la Pâque, qui était Christ, a lieu le 14 Nissan, et le repas de la Pâque a lieu le 15. Les deux soirées doivent être observées à l'extérieur des villes, avec les 7 jours entiers de la fête des pains sans levain. Le dîner du Seigneur est donc un événement annuel lié à la Pâque et au pain sans levain. La Bible déclare que les imperfections des fêtes sont causées par ceux qui, dans le corps, s'abandonnent pour le gain à l'erreur de Balaam et périssent dans la rébellion de Corée. Jude, versets 11 à 12. Autrement dit, ils enseignent pour un salaire et pervertissent les fêtes et la compréhension de la loi et du témoignage. Il n'y a aucune lumière en eux. Ésaïe 8, verset 20 dans la version King James ou Aube dans la version RSV de la Bible. Ils sont deux fois morts et déracinés. Ces gens dépourvus de l'esprit causent des divisions dans les derniers jours. Jude, verset 19. La rébellion de Corée est donc un processus continu contre la parole de Dieu. Comparez le document d'étude des Nicolaïtes, numéro 202. Christ est capable d'empêcher les élus de tomber et de les présenter devant Dieu, notre Sauveur. Jude, verset 24 à 25. Voir l'interlinéaire RSV de Marshall. Cependant, les divisions sont permises au sein du corps de Christ pour qu'il puisse être rendu manifeste qui a la vérité et l'approbation de Dieu. 1 Corinthiens 11, verset 19. L'argument selon lequel le texte de Galates 3, verset 10 élimine les fêtes montre une ignorance de la nature pré-sinaïtique de la création et des sabbats. La restauration des fêtes sous peine de famine est une adjonction nécessaire au commencement du millénium. Zacharie 14, verset 16 à 19. Christ ne change pas d'avis. Christ restaure les fêtes parce qu'il exige qu'elles soient observées, célébrées. Les églises de Dieu, incluant Christ et l'église apostolique, Matthieu 26, verset 17 à 20, Luc 2, verset 41, 42, chapitre 22, verset 15, Jean 2, verset 13, 23, Jean 5, verset 1, Jean 7, verset 10, chapitre 10, verset 22, acte 18, verset 21 dans la version King James, chapitre 19, verset 21, chapitre 20, verset 6, verset 16, chapitre 24, verset 11, verset 17, ont célébré les fêtes depuis 2000 ans, à l'exception d'une église du 19e siècle. Les éléments de l'église observant le sabbat en Europe, qui ont cessé d'observer les commandements de Dieu ou qui sont tombés en apostasie ont alors perdu les fêtes. Voir les documents d'étude, le rôle du quatrième commandement dans l'histoire des églises de Dieu observant le sabbat, numéro 170. Et aussi la loi de Dieu, numéro L1, et la série sur la loi, les numéros 252 à 263. Comme Christ et les autres apôtres et presbytéries, Paul a observé les fêtes, comme nous l'avons vu dans Actes. Paul ne les a donc pas abolies, et ne pouvait d'ailleurs pas le faire. Le temple a été choisi comme un temple des sacrifices. Deux Chroniques 7, verset 12. Après les tabernacles à Hébron et de Silo. Cependant, les fêtes n'étaient pas liées au temple. Le Seigneur a choisi Sion pour sa demeure. Psaume 132, verset 13 à 14. Mais ce choix a été suspendu pendant l'errance de l'Église dans le désert jusqu'au retour du Messie. Cette action a été préfigurée par les 40 ans sous la colonne de feu et de nuée dans le désert. Comparez aussi le document d'étude « Les grandes lignes de la chronologie de l'âge » numéro 272. C'était une indication spécifique que Christ indiquerait le centre d'adoration par l'intermédiaire des élus. Sous les apôtres, l'Église célébrait les fêtes dans des emplacements divers, bien que Paul ait cherché à retourner à Jérusalem pour la fête mentionnée dans Actes 18, verset 21, 19, verset 21. Voir la version King James de la Bible et la Bible interlinéaire. Actes 20, verset 6 montre que Paul a observé les jours des pains sans levain à Philippe, ayant été retardé. Paul a ensuite cherché à être à Jérusalem pour la Pentecôte, voir Actes 20, verset 16. Tant les Juifs que les chrétiens ont célébré les fêtes dans la dispersion. Les fêtes ont précédé le temple et lui ont succédé. Seul le sacrifice est central au temple. Cependant, le sacrifice a également eu lieu ailleurs, aussi bien durant la période du temple qu'après sa destruction pendant la captivité babylonienne. Le temple à Éléphantine a assumé les fonctions du sacrifice jusqu'à ce que le temple soit reconstruit sous le règne de Darius II. Le temple d'Éléphantine a été alors détruit par une attaque. Entre parenthèses, voir l'ouvrage de Pritchard, The Ancient Near East, l'Ancien Proche-Orient, volume 1, aux pages 278 à 282. Les lettres araméennes dans l'œuvre de Pritchard, traduites par Gisberg, montrent les archives de la directive de la Pâque à l'Empire, mentionnée dans Esdras. Consultez le document d'étude « Le signe de Jonas et l'histoire de la reconstruction du temple » numéro 013. Les contributions à la restauration du temple sont mentionnées comme le sont les circonstances de la destruction du temple à Éléphantine durant la 14e année de Darius. Les gouverneurs de Juda avaient également un contrôle politique sur les prêtres, les sacrificateurs, à Éléphantine. Les textes montrent que le sacrifice n'a jamais cessé au moment de la destruction de Jérusalem et le temple a été restauré à Jérusalem lors de la reconstruction du temple à cet endroit. Le sacrifice a cessé avec la Nouvelle Alliance et la destruction finale du temple à Jérusalem, mais les fêtes ont continué dans la dispersion. L'Église a célébré les fêtes sous la persécution pendant 2000 ans. Un autre temple a été également construit en Égypte, à Léontopolis, dans le nome d'Héliopolis, par le grand prêtre, souverain sacrificateur, Onias IV. Ce temple a été prophétisé par Dieu par l'entremise d'Ésaïe, voir Ésaïe 19, verset 19. Il a été fermé sur ordre de Vespasien en l'an 71 de notre ère, après la destruction du temple de Jérusalem, bien qu'il ait continué à offrir des sacrifices à cet endroit depuis sa construction à peu près vers l'an 160 avant notre ère. Les élus sont jugés par leur connaissance de l'unique véritable Dieu. La connaissance de la loi découle de la connaissance de Dieu, et elle devient enracinée dans l'esprit et le cœur de l'individu. Le problème n'est pas le sabbat ou les fêtes ou la loi. C'est le fait que Dieu le Père est l'unique véritable Dieu. Voir Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20, et que lui seul est immortel. 1 Timothée 6, verset 16. Si nous ne nous accrochons pas à cette vérité, nous serons enlevés des élus, et nous serons livrés à une forte illusion et à la croyance dans le mensonge. De Thessaloniciens 2, verset 11. L'interlinéaire de Marshall traduit ce verset comme une opération de l'erreur, afin qu'ils croient à un mensonge. Ils ne peuvent plus s'aider eux-mêmes. Ils sont simplement enlevés des élus et leur compréhension leur est enlevée. Ils ne peuvent pas comprendre, même s'ils voulaient voir l'erreur. Toute la compréhension des élus est fondée sur leur relation avec l'unique véritable Dieu et leur connaissance de Dieu et de son Fils Jésus-Christ. Jean 17, verset 3, 1 Jean 5, verset 20. La transgression du premier commandement assure que les fêtes sont enlevées. Elles ne peuvent pas être célébrées, même si ceux qui sont dans l'erreur désirent les observer. Dieu interviendra à long terme. Pour ceux qui observent la loi, les fêtes sont un rappel nécessaire du plan de Dieu. De plus, la restauration obligatoire de Christ dans son système, montre que les fêtes sont exigées et qu'elles sont en effet une bénédiction pour ses disciples. L'enlèvement des 10 commandements des exigences de la loi et leur confusion avec la loi sacrificielle, appelée la loi cérémonielle, provient d'une profonde ignorance des enseignements de Christ et des apôtres, à tel point que même les réformateurs protestants ne sont pas tombés dans cette erreur. C'est une caractéristique de la faiblesse spirituelle, de l'erreur et de l'échec de l'Église dans les derniers jours. Cette faiblesse est visible dans les promesses faites aux Églises au chapitre 2 et 3 d'Apocalypse, où l'Église de Sardes est morte et l'Église de Laodicée est vomie. Aucune de ces Églises n'entre dans le royaume de Dieu. Seul un petit nombre de leurs membres entre dans la première résurrection. La progéniture, la semence de la femme, qui est l'Église, ce sont ceux qui observent les commandements de Dieu et qui gardent le témoignage ou la foi de Jésus-Christ. Voir Apocalypse 12, verset 17, chapitre 14, verset 12. Consultez aussi le document d'étude « L'amour et la structure de la loi » numéro 200. Fin de la lecture de l'étude « La distinction dans la loi » numéro 096.